Alors je présente maintenant M. Ricu Perrot. Il est né en 1937 à São Paulo, au Brésil. Il est depuis 1995 le cinquième secrétaire général de la Conférence des Nations Unies pour le Développement, la CNUSED. Il a été de 1979 à 1995 professeur de théorie des relations internationales à l'Université de Brasilia. De 80 à 95, il a été aussi professeur d'histoire des relations diplomatiques brésiliennes au Rio Branco Institute. De 87 à 91, il a été ambassadeur aux Nations Unies. De 89 à 91, il a occupé plusieurs fonctions au sein du GATT. De 91 à 93, il a été ambassadeur du Brésil aux États-Unis. Il a été aussi ministre des Finances du Brésil en 94, ambassadeur en Italie en 95, et en 95, il est devenu donc cinquième secrétaire général de la Conférence des Nations Unies pour le Développement. Il est l'auteur de très nombreux articles de théorie économique et de plusieurs essais sur les relations internationales, les questions du développement économique, l'histoire diplomatique. Les lecteurs assidus du Monde ont pu lire, je crois qu'il y a environ 6 mois à peu près, une interview de lui dans le Monde, dans le supplément économique. Et je pense que vous pourrez retrouver sa conférence en partie la semaine prochaine dans le Monde. Parce que pour le reste, ces publications ne sont pas disponibles en langue française. Donc je vais donc lui laisser la parole pour une cinquantaine de minutes, en le remerciant encore de nous faire l'honneur d'ouvrir ce cycle de conférences. Puis vous pourrez poser vos questions pendant un quart d'heure, 20 minutes. Je vous remercie.
Merci. Et bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais d'abord vous remercier à tous ceux qui me font l'honneur de venir m'entendre. Et je vous prie aussi de m'excuser de mon accent quelque peu tropical. Vous savez, j'appartiens à une génération dans mon pays où on commençait à apprendre le français à l'école primaire, mais sans jamais perdre l'accent un peu carioca avec lequel nous parlons. Alors, je m'excuse, mais j'espère bien que vous serez capables de me suivre. Un siècle et demi après la publication du manifeste communiste, l'inégalité revient avec force dans l'agenda global. Ce n'est pas la phrase d'un dirigeant d'un parti de gauche. C'est Madame Nancy Birdsong, ancienne vice-présidente de la Banque interaméricaine de développement, représentant les États-Unis, aujourd'hui à la Carnegie Foundation, qui l'affirmait dans un article paru en 1998 dans les magazines Foreign Policy, à l'occasion du 150e anniversaire du manifeste. Après avoir évoqué l'aggravation des disparités dans le revenu au sein de la société américaine, elle continuait. Au niveau mondial, la relation entre les revenus moyens du pays les plus riches par rapport aux plus pauvres, qui était de 9 pour 1 à la fin du 19e siècle, est passé à 60 pour 1 au moins aujourd'hui. D'autres sont allés encore plus loin. D'après une étude réalisée en 1999 par Raymond Baker et Jennifer Norden, également de la Carnegie Foundation, et je cite, « On peut s'attendre à ce qu'au début du siècle, l'écart de revenus entre les quintiles supérieurs et inférieurs soit d'environ 5,50 pour 1, si ce n'est déjà le cas. » L'étude la plus récente et vraisemblablement la plus complète et impressionnante à ce sujet a été publiée dans The Economic Journal de la Royal Economic Society du Royaume-Uni en janvier 2002 par l'économiste de la Banque mondiale, M. Branko Milanović. Comme dit l'auteur, c'est le premier calcul de l'inégalité globale, c'est-à-dire l'inégalité entre tous les individus du monde, et non pas seulement les comparaisons des moyennes entre les pays. C'est le premier calcul de l'inégalité mondiale ou globale du revenu et de la dépense basé exclusivement sur des enquêtes menées auprès des ménages qui couvrent à peu près 84% de la population mondiale et 93% du produit intérieur brut, PIB. Voici quelques-unes de ces conclusions. Première, l'inégalité mondiale des revenus est très élevée. Les coefficients Gini, vous savez, c'est la mesure la plus utilisée de l'inégalité, où 0 signifie l'égalité parfaite et 100 veut dire une situation hypothétique où une seule personne détient la totalité du revenu. Ce coefficient Gini est aujourd'hui de 66 si l'on utilise des revenus ajustés selon les différences de pouvoir d'achat et de presque 80 si l'on utilise des revenus en dollars courants. 2. L'inégalité mondiale a augmenté d'un coefficient Gini de 62,8 en 1988 à 66 en 1993, ce qui représente une croissance de 0,6 points par an. C'est une augmentation très rapide, supérieure même à celle qu'ont connue les États-Unis et la Grande-Bretagne pendant la décennie de 1980, c'était les années Reagan et Thatcher, où il y a eu une aggravation sensible des inégalités. Troisième, la croissance de l'inégalité entre 88 et 93 a été en même temps le résultat de l'augmentation des disparités, soit à l'intérieur du pays, soit au niveau international, c'est-à-dire entre les différents pays. Néanmoins, ce sont surtout les différences entre les pays riches et les pauvres qui explique la majeure partie de l'aggravation du phénomène, entre 75% et 88% de l'inégalité totale. 4. Les 5% qui sont au plus bas de l'échelle sont devenus plus pauvres encore, car leurs revenus en termes réels ont baissé d'un quart, c'est-à-dire 25%, entre 1988 et 1993, tandis que les 5% plus riches ont gagné 12% en termes réels. 5. Les 1% plus riches au monde reçoivent autant que les 57% des plus pauvres, ou en d'autres termes, moins de 50 millions des individus plus riches reçoivent autant que 2,7 milliards des pauvres. Cela vous donne un peu la dimension du problème international. Mais il y a encore davantage. Depuis les débuts des années 80, l'économie mondiale a été marquée par les doubles phénomènes de l'aggravation des inégalités et par une croissance molle, anémique. Les fossés entre les revenus du Nord et ceux du Sud a continué de se creuser. En 1965, les revenus moyens par habitant des pays du G7, c'est-à-dire les plus riches, étaient 20 fois plus élevés que celui des 7 pays les plus pauvres du globe. En 1995, c'est-à-dire 30 ans plus tard, il était 39 fois supérieur. Certes, dans plusieurs pays en développement, la croissance a été plus rapide que dans les pays industrialisés, sans toutefois être suffisante pour réduire l'écart absolu entre les revenus par habitant. En Afrique, où cet écart s'est creusé au cours des 3 dernières décennies, le revenu moyen par habitant ne représente aujourd'hui que 7% seulement de celui des pays industrialisés. En Amérique latine, le changement a été plus brutal encore. À la fin des années 70, les revenus moyens par habitant y étaient de plus d'un tiers de celui des pays du Nord, alors qu'aujourd'hui, ils n'en représentent plus qu'un quart. Seuls quelques pays d'Asie de l'Est ont réussi à conserver une croissance assez rapide pour se rapprocher du Nord, voire, dans certains cas, les rattraper. Mais alors que ces pays ont réussi à rejoindre la catégorie des nations à revenus élevés, peu de pays en développement sont parvenus à prendre la place laissée par les premiers. Le pays à revenus intermédiaires, entre 40 et 80% du revenu moyen des pays avancés, sont moins nombreux aujourd'hui que dans les années 70. C'est le phénomène de la polarisation. Cette polarisation des pays s'est accompagnée d'une aggravation des inégalités internes. La part du revenu national détenue par les 20% les plus riches de la population a augmenté presque partout à partir du début des années 80, ce qui représente bien souvent une inversion de la tendance observée depuis la fin de la guerre. Dans plus de la moitié des pays en développement, elle dépasse 50%. Les niveaux de vie de ceux qui sont au bas de l'échelle ne s'est pas amélioré vraiment et parfois s'est en fait détérioré. Dans beaucoup de pays, les revenus des 20% les plus pauvres de la population n'équivaut pas même au dixième de celui des 20% les plus riches. Mais l'augmentation de la part des riches est également toujours allée de pair avec une diminution de celle de la classe moyenne. Cet amenuisement de la classe moyenne est devenu, dans bien des cas, une importante caractéristique de la répartition des revenus. L'élargissement des écarts entre les catégories des revenus est notable dans tous les pays en développement, quel que soit leur degré de réussite et que leur stratégie soit axée sur l'exportation ou sur les marchés intérieurs. En Asie de l'Est, l'inégalité s'est aggravée dans une plus ou moins large mesure, tant dans les nouveaux pays industrialisés du premier rang que dans ceux du deuxième au cours des 20 dernières années. Sauf dans la République des Corées, la Corée du Sud, et dans Taïwan, elle y est aujourd'hui aussi importante, voire plus, que dans les autres pays en développement. En Amérique latine, la crise de la dette du début des années 80 et les marasmes économiques qui a suivi ont provoqué une détérioration de la situation, mais la reprise ultérieure n'a pas inversé la tendance. En Afrique, l'inégalité est de plus en plus marquée dans les campagnes. Ces tendances sont imputables à des forces communes déclenchées par la libéralisation rapide qui favorise certaines catégories sociales par rapport à d'autres. La disparité croissante entre les salaires des travailleurs qualifiés et ceux des travailleurs non qualifiés pose un problème non seulement dans les pays développés, mais encore dans le monde entier. Dans presque tous les pays en développement, cette disparité s'est accentuée. En général, l'emploi des ouvriers non qualifiés a reculé et leurs salaires réels se sont fortement contractés, de 20 à 30% dans certains pays d'Amérique latine. Le capital s'est développé au détriment des salaires et la part des bénéfices s'est accrue partout. Dans 4 pays en développement sur 5, la part des salaires dans la valeur ajoutée manufacturière est aujourd'hui nettement inférieure à ce qu'elle était dans les années 70 et au début des années 80. Dans les principaux pays industrialisés, les bénéfices ont suivi des tendances ascendantes remarquablement convergentes. Les taux de rendement du capital des entreprises des pays du G7 est passé globalement de 12,5% au début des années 80 à plus de 16% au milieu des années 90, tandis que là aussi, la part des salaires allait diminuant. La libéralisation financière a entraîné un alourdissement de la dette publique et de la dette privée. Une nouvelle catégorie de rentiers est apparue dans le monde entier, par suite de la nette expansion des flux internationaux de capitaux et de la hausse des taux d'intérêt réels. Dans certains pays en développement, les intérêts payés sur la dette publique et privée ont représenté jusqu'à 15% du produit brut. Lorsque les richesses sont concentrées et que la fiscalité est dégressive, comme c'est souvent le cas dans les pays en développement, la dette publique sert à redistribuer les revenus des pauvres aux riches, d'une façon qui est encore plus dégressive que la taxation par les biais de l'inflation. Dans le Nord comme dans le Sud, une grande partie de l'augmentation des recettes des entreprises a été absorbée par des paiements d'intérêts accrus. La libération des prix agricoles n'a pas toujours suffi à supprimer les déséquilibres entre villes et campagnes, ni à donner un coup de fouet aux revenus des agriculteurs, en particulier en Afrique. Dans beaucoup de pays qui s'étaient lancés dans des réformes, les termes de l'échange antérieur pour l'agriculture ne se sont pas améliorés comme on l'avait espéré, et les prix à la production pour les cultures d'exportation sont restés bien inférieurs aux prix à la frontière. Ce sont principalement les négociants et non les agriculteurs qui ont recueilli les fruits de la libéralisation. Alors, je me demande dans ce texte, l'inégalité est-elle dangereuse? Après avoir vu ce panorama, il est possible que ces disparités internationales et nationales ne soient que la conséquence provisoire de la transformation rapide de l'économie mondiale. L'enrichissement des nantis peut en effet préluder à une croissance rapide et avoir des retombées positives sur tous les autres groupes socio-économiques. Tout porte cependant à croire que la croissance restera molle et que les inégalités s'accentueront. Au cours de la dernière décennie, les taux de croissance moyen de l'économie mondiale s'est établi à 3% par an, soit environ 2 points de pourcentage de moins que pendant ce qu'on appelle en France les 30 glorieuses, c'est-à-dire les années entre 1950 et 1973. Un taux de croissance aussi modeste ne peut régler ni les problèmes du chômage dans les pays développés, ni celui de la pauvreté dans les pays en développement. Il ne permettra pas non plus de combler les fossés entre le nord et le sud. Le fait que la concentration accrue du revenu national entre les mains d'une minorité ne s'est pas accompagnée d'une hausse de l'investissement ni d'une accélération de la croissance est particulièrement préoccupant. Dans le Nord, les bénéfices ont atteint des niveaux inégalés depuis les années 60. Mais en général, ils engendrent moins d'investissements et d'emplois qu'auparavant. Dans le Sud, où les riches possèdent souvent plus de la moitié du revenu national, l'investissement productif privé suffit rarement à entraîner une hausse sensible du revenu par habitant. C'est cette concomitance de la hausse des bénéfices d'une part et de la stagnation de l'investissement, de la montée du chômage et de la baisse des salaires d'autre part qui doit être notre principal motif d'inquiétude. À côté des problèmes éthiques et sociaux inhérents au phénomène de l'inégalité, il y a aussi les dangers qui proviennent de la manière dont les nantis emploient leurs revenus. Une toute petite partie de la population dont les dépenses ont des vastes répercussions économiques et sociales, accumulent les richesses. Les détenteurs du capital qui investissent une grande part de leurs revenus et qui contribuent ainsi à l'amélioration générale du niveau de vie acquièrent davantage de légitimité que ceux qui ne le font pas. Dans certains des nouveaux pays d'Asie de l'Est, où les riches possèdent moins de 50% du revenu national, l'épargne et l'investissement privé représentent un tiers du produit brut, contre guère plus de 15% dans beaucoup de pays de développement où les nantis détiennent plus de la moitié du revenu. Certains des facteurs qui contribuent à accroître les inégalités dans le cadre de la mondialisation ont aussi pour effet de freiner l'investissement et la croissance. La libéralisation rapide des activités financières les a dissociés du commerce et de l'investissement productif international. La hausse des taux d'intérêt provoqués par des politiques monétaires restrictives a alourdi les coûts de la formation des capitaux et encouragé une grande partie des milieux industriels et commerciaux à concentrer son énergie sur l'achat et la vente d'actifs de seconde main. La préférence que la finance mondiale accorde à la liquidité, ainsi que les entrées-sorties éclairs sur les marchés des capitaux destinés à réaliser des gains rapides, ont découragé l'investissement du long terme dans des capacités nouvelles. La multiplication des possibilités de sortie, conjuguée à une faible augmentation de la demande et à un excédent de main-d'œuvre, a contribué à accroître les bénéfices mondiaux, souvent sans stimuler l'investissement. La restructuration des entreprises, la suppression d'emplois et la compression des salaires sont donc devenues courantes dans un monde marqué par une croissance anémique, avec pour conséquence une plus grande insécurité dans l'emploi et de revenus. Si cette situation perdure, les risques sont réels qu'une vive réaction politique ne viennent annihiler de nombreux effets bénéfiques des réformes économiques entreprises récemment dans le pays, tant développé qu'en développement, voire remettre en cause certains acquis de l'intégration. Les tristes exemples des années 20 et 30 nous montrent avec quelle rapidité la confiance dans les marchés et dans l'ouverture peut être sapée par des événements politiques. Sans aucun doute, ce seraient de nouveau les plus démunis qui feraient les frais d'une désintégration de l'économie internationale. Alors, on se pose la question: quelle est la solution? Préoccupés par les inégalités des revenus, certains pays ont été amenés dans le passé à mettre en place des dispositifs institutionnels qui restreignaient fortement les rôles des marchés et de la propriété privée. S'ils ont souvent réussi à limiter les disparités des revenus pendant assez longtemps, ces dispositifs ont entraîné dans de nombreux cas une perte de dynamisme, puis une stagnation. La plupart des pays conviennent désormais que les prix à payer sont trop élevés et qu'un certain degré d'inégalité peut être justifié pour autant qu'ils servent à stimuler des activités qui contribuent à la prospérité générale. Pour les pays du Sud, toute la question est de savoir comment faire en sorte que la progression des bénéfices se traduise par une hausse de l'investissement suffisamment rapide pour que s'instaure un contrat social, les inégalités de départ pouvant être tolérées puis réduites par l'augmentation ultérieure de revenus et du niveau de vie de l'ensemble de la population. Pour y parvenir, il faut prendre conscience de certaines vérités incontournables. En premier lieu, il n'existe pas de loi économique qui garantisse que les niveaux de revenus de pays en développement se rapprochera immanquablement de celui des pays développés. En deuxième lieu, la croissance et le développement n'entraînent pas automatiquement une réduction des inégalités. Même les pays d'Asie de l'Est en plein essor connaissent des problèmes de répartition. Cependant, le point positif est que lorsqu'un tel rapprochement a lieu, on peut désormais l'attribuer clairement à la stratégie de développement qui a été suivie. Par ailleurs, si l'on examine les diverses phases du développement des pays d'Asie de l'Est, on s'aperçoit que les gouvernements ont un rôle important à jouer en vue de concilier croissance économique rapide et meilleure répartition de revenus. Les mesures visant à canaliser les bénéfices de façon à accélérer la croissance peuvent également agir sur la répartition des revenus. Par exemple, l'intégration à l'économie mondiale. Il est possible d'améliorer la qualité et les volumes des investissements en s'intégrant davantage dans l'économie mondiale grâce aux courants commerciaux et financiers, y compris les investissements étrangers directs. Toutefois, ces facteurs extérieurs doivent compléter et non remplacer les facteurs antérieurs de croissance par les biais de l'accumulation du capital et du renforcement des capacités technologiques. Cela n'est possible que si l'intégration dans l'économie mondiale se fait de manière judicieuse et progressive, c'est-à-dire si elle est adaptée au niveau de développement économique de chaque pays et aux capacités de ses institutions et industries. Une telle stratégie est à l'opposé de la libéralisation sauvage et chaotique dans laquelle se sont lancés certains pays au cours des récentes années et dont l'Argentine, après la Russie, est le dernier et dramatique exemple en date. Je dis toujours que ce qui compte dans cette matière, c'est la qualité, non pas la quantité de l'intégration. Dans le cas de mon pays, le Brésil, nous avons été parfaitement intégrés au commerce mondial pendant plus de 3 siècles parce que nous exportions la totalité du sucre et du café que nous produisions. Mais c'était une intégration de type pervers parce que basée sur l'esclavage et sur la grande propriété foncière. Alors, les mêmes processus qui nous intégraient au monde extérieur nous désintégraient par rapport à notre société. Répartition, c'est une autre manière d'aborder ces problèmes. Le renforcement des mécanismes qui contribuent à une plus grande égalité dans le Sud passe par l'absorption rapide de l'excédent de main-d'œuvre. Dans les campagnes, la réforme agraire, la politique agricole et les investissements publics peuvent arrêter la montée des inégalités qui caractérise la croissance des pays où la main-d'œuvre est surabondante, comme en Chine, par exemple. La tâche sera toutefois plus difficile si la main-d'œuvre excédentaire ne fait que se déplacer vers les zones urbaines. Au fur et à mesure que le pays se développe, il devient indispensable d'adopter une politique industrielle favorable à la modernisation afin de soutenir l'augmentation des salaires réels. Il importe tout particulièrement d'avoir une main-d'œuvre qualifiée, suffisante, faute de quoi les écarts des salaires risquent de se creuser. Tout au long de ces processus, les mesures fiscales visant à décourager la distribution des bénéfices aux particuliers sous forme de revenus et à restreindre la consommation d'articles de luxe contribuent non seulement à accélérer l'investissement et la création d'emplois, mais aussi à réduire les inégalités des revenus entre les personnes. L'intéressement des salariés aux bénéfices, pratique courante en Asie de l'Est, peut également renforcer les consensus sociaux autour du couple bénéfice-investissement. Il serait souhaitable que les efforts de pays en développement s'inscrivent dans un cadre mondial favorable. On constate toutefois, parmi les asymétries de la mondialisation, que la libéralisation de l'économie mondiale s'est faite jusqu'à présent d'une manière déséquilibrée, qui tend à compromettre les perspectives de croissance de ces pays en pénalisant les activités pour lesquels ils pourraient avoir un avantage comparatif. Les échanges de marchandises ont été libéralisés plus lentement dans les secteurs où les pays en développement sont les plus compétitifs. Ainsi, le commerce des textiles ne sera totalement libre qu'en début de l'an 2005. Et les principaux blocs commerciaux continuent de protéger leur agriculture. Des nouvelles formes de protection contre les exportations des produits manufacturés du Sud sont envisagées afin de remédier au chômage qui sévit dans le Nord. C'est le cas des sauvegardes américaines contre l'acier, par exemple. Si de nombreuses restrictions à la liberté du capital et des travailleurs qualifiés d'aller là où ils sont les mieux rémunérés ont été levées, on ne s'est guère soucié de supprimer les nombreuses entraves à la circulation de la main-d'œuvre non qualifiée. Il importe que la communauté internationale élimine progressivement de telles distorsions si elle veut créer des conditions propices à une croissance soutenue et équitable à la fois. Les efforts de la communauté internationale pour aider les pays en développement risquent d'autre part d'être vains si la croissance économique reste molle dans le Nord, comme c'est le cas aujourd'hui. Les retours à une croissance plus rapide il y a une politique de plein emploi, est donc indispensable, non seulement pour triompher de deux maux que sont le chômage et l'inégalité croissante des salaires dans le Nord, mais encore pour empêcher que l'opinion publique ne s'insurge contre la mondialisation, ce qui pourrait remettre en cause les acquis de l'intégration économique internationale. On commence aujourd'hui à mieux comprendre la relation positive des renforcements réciproques qui existent entre distribution plus égalitaire et croissance accélérée. En analysant de près les meilleures réussites en Asie, par exemple, le professeur Francis Stewart de l'Université d'Oxford a montré que les nations avec une distribution des revenus moins déséquilibrée croissent plus vite et plus longtemps que les autres. Quelques-unes des explications de ces résultats sont d'ordre économique. Premier, une relative égalité dans l'accès pour tous aux facteurs de production, comme la terre ou les crédits, donne souvent lieu à une productivité plus élevée et facilite l'accès des plus pauvres aux informations utiles pour rendre leurs investissements plus efficaces. Deuxième, l'égalité réduit la pauvreté et permet d'améliorer les niveaux de nutrition, de santé, d'éducation, ce qui à son tour donne naissance à une force de travail plus productive et innovatrice. Troisième, de la même façon, l'augmentation de l'égalité facilite l'expansion du marché intérieur, permettant de mieux exploiter les économies d'échelle et par conséquent d'accélérer l'industrialisation et la croissance. Quatrième, par contraste, l'inégalité est en général associée à une fertilité démographique plus élevée, la pression démographique pesant négativement sur la possibilité d'améliorer les niveaux des revenus per capita et les bien-être général. D'autres raisons sont de nature politique très évidente. Par exemple, premier, l'inégalité extrême empêche un minimum de cohésion et de consensus internes. Elle génère l'instabilité politique, rend plus aigus les conflits de distribution. C'est un facteur d'incertitude, de découragement de l'investissement. Deux, les disparités et les pressions qu'engendre l'inégalité sont à la racine des politiques populistes qui terminent par paralyser la croissance. Trois, l'inégalité élevée est presque toujours le synonyme des privilèges, des groupes ayant le pouvoir de ne pas payer d'impôts, de monopoliser les crédits et les ressources de l'État, de mettre les systèmes productifs au service de la satisfaction de la consommation des biens superflus au détriment de la satisfaction des besoins de la majorité. Quatrième, ces genres de sociétés déséquilibrées mènent à la violence d'origine politique. Conflits civils, guérillas, criminalité à large échelle, ce qui produit souvent des régimes autoritaires et répressifs, conditions favorables à la corruption, aux projets pharaoniques, à des erreurs tragiques des politiques économiques ou environnementales, difficiles à corriger à cause de la censure, de la manipulation et falsification des statistiques, de la suppression du débat et de la critique. Il est par conséquent essentiel que les gouvernements choisissent les politiques nationales adéquates pour assurer la croissance avec distribution égalitaire de ses bénéfices. Cependant, même les meilleures politiques et institutions nationales resteront inefficaces si elles ne sont pas complétées et soutenues par un environnement international positif. Ce lien est devenu plus crucial à la suite du processus de mondialisation qui rend de plus en plus difficile d'établir une séparation nette entre inégalités nationales et internationales, tellement les économies sont aujourd'hui dépendantes du contexte mondial dans lesquelles elles opèrent. Cet effet est particulièrement aigu dans les cas de pays les moins avancés, les PMA, les 49 nations qui sont les pauvres parmi les pauvres, dont 34 en Afrique. Ces pays sont en danger de devenir les victimes d'une espèce de piège de pauvreté internationale. Pour ces économies extrêmement fragiles et vulnérables, la faiblesse des revenus et la croissance entravent la mobilisation des ressources intérieures et l'insuffisance de l'investissement et l'utilisation peu efficace des ressources freinent à leur tour la croissance. C'est un cercle vicieux. La seule façon de s'en sortir est de faire appel au financement extérieur, public ou privé, à l'allègement de la dette et à l'augmentation substantielle de l'assistance extérieure au développement. L'ensemble de ces mesures devrait avoir comme but de mieux préparer ces pays à participer aux bénéfices du commerce international et à la concurrence sur les marchés mondiaux. En bref, nous devrions viser l'intégration vertueuse de pays en développement dans un système mondial plus favorable, qui leur permettrait de poursuivre une croissance régulière et socialement harmonieuse, d'accroître leur épargne et leur productivité, de diversifier leur capacité de production, d'améliorer leur capacité technique et d'augmenter leur part dans la chaîne de la valeur ajoutée. Il en découle d'importantes conséquences pour la concurrence. Celle-ci ne peut plus être considérée comme un simple jeu économique n'exigeant que des règles bien définies et un arbitre impartial. Un troisième élément devient indispensable, un bon apprentissage de la compétitivité. Personne ne jugerait raisonnable ou juste de demander à un élève d'école primaire de se mesurer à un diplômé de Harvard ou de la Sorbonne. Mais c'est en fait ce que l'on attend de nombreux pays en développement dans les contextes des échanges commerciaux mondiaux. À tout le moins, il faudra fournir à chaque débutant une chance égale d'apprendre les règles du jeu, en lui laissant un temps d'apprentissage pendant lequel il ne risquera pas d'être mis hors course par des joueurs déjà confirmés. Même des conditions de concurrence relativement égales peuvent ne pas être suffisantes lorsque les inégalités et les pauvretés sont telles que les pays et les individus partent des niveaux bien trop disparates. Selon l'historien britannique Toney, l'égalité des opportunités, et je cite, « les possibilités de s'élever ne peuvent remplacer une certaine égalité concrète des revenus et des conditions sociales. Pour que ces possibilités existent, il faut non seulement que la voie soit ouverte à tous, mais aussi que les points de départ soient les mêmes pour tous. » C'est parce qu'ils sont conscients que dans une société inégale, ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté sont condamnés à rester pauvres, dans l'absolu comme d'un point de vue relatif, que certains pays ont eu recours à une discrimination positive, à des lois sur l'égalité des chances et d'autres mesures volontaristes pour remédier à des disparités initiales criantes. Les mêmes raisons, selon moi, justifient la nécessité de continuer d'appliquer aux pays en développement un traitement spécial et différencié, redéfini de façon plus concrète et actualisée. Les fondements du concept de traitement spécial et différencié est très simple. Il part du constat que des pays inégaux en termes de structure économique ne peuvent être traités sur un plan d'égalité. Les pays en développement souffrent des faiblesses économiques et structurelles qui justifient un traitement spécial pour faciliter et accélérer leur insertion dans l'économie internationale et attaquer par là même les causes des inégalités internationales. Face au lien croissant entre économie nationale et internationale et face à des inégalités nord-sud non résolues, on peut se demander si les moyens mis en place dans le cadre du traitement spécial sont à même de diminuer les inégalités au niveau international telles que celles mentionnées auparavant. Il faudrait, à mon avis, explorer de nouvelles formes de mesures compensatoires dans des domaines relativement nouveaux dans le cadre de la coopération économique internationale. Les transferts des techniques, la propriété intellectuelle, les mesures d'accompagnement aux investissements privés, autant de domaines où l'on devrait envisager de nouvelles formes de mesures compensatoires. C'est de cette façon que les concepts de traitement spécial et différencié pourraient véritablement démontrer son utilité. L'objectif de la démarche que nous devons entreprendre est à mes yeux d'une triple nature. Primo, réduire la vulnérabilité externe des pays les plus économiquement faibles de la planète. Secondo, renforcer leur capacité de profiter des opportunités offertes par les processus de mondialisation. Tertio, et en guise de corollaire, mettre cette mondialisation jusqu'aujourd'hui source de crises dramatiques et d'accroissement d'inégalités au service de l'homme et non pas d'une frénésie productiviste sans véritable sens. Et c'est ce dernier volet de notre objectif, la mesure dans laquelle nous les remplirons, qui rendra viable à terme le monde globalisé où nous vivons. Mes conclusions maintenant pour terminer. La croissance des inégalités et l'augmentation de la précarité et de l'insécurité de l'emploi sont sans doute les deux causes principales du malaise contemporain, voire du rejet ouvert de la mondialisation dans sa forme actuelle. Ces deux problèmes sont étroitement liés. Ils peuvent et doivent être abordés par des nouvelles réglementations qui sont aussi indispensables aujourd'hui qu'elles l'avaient été au temps de l'accumulation sauvage du capital pendant les premières phases de la révolution industrielle. Il n'y a aucun déterminisme dans ces phénomènes. Ils ne sont pas les résultats inévitables des lois scientifiques qui nous sont imposés par la nature des choses. Au contraire, comme il a été clairement démontré dans plusieurs études, et notamment celles conduites par le professeur Anthony Atkinson de l'Université d'Oxford, les inégalités ont été souvent la conséquence des choix politiques des sociétés spécifiques. Le professeur Atkinson montre que même deux pays voisins appartenant au même espace économique, comme le Canada et les États-Unis, ont connu des performances assez divergentes en matière de tolérance envers l'aggravation des inégalités. Il suffit de regarder aussi l'excellente performance économique de pays tels que les Pays-Bas et certaines nations scandinaves, qui ont maintenu leur attachement à la réduction des inégalités, réfutant l'argument de l'inévitabilité de l'augmentation des inégalités. Malheureusement, la tolérance peut être la condescendance par rapport à l'inégalité a été une des conséquences indésirables et inattendues de la fin du système bipolaire du socialisme réel et de la pression exercée par les pays socialistes sur les autres sociétés. Dans ce sens, j'aimerais vous lire cette belle réponse d'Emmanuel Levinas, peu de temps avant sa mort, dans une interview au journal italien La Stampa, qui lui avait demandé s'il considérait la fin du communisme comme une victoire des démocraties. Non, répondit-il. Je pense qu'elles ont perdu, et qu'elles ont beaucoup perdu. En dépit de toutes ces horreurs et de tous ces excès, le communisme avait toujours été synonyme d'espoir et d'attente. Espoir qu'il serait possible de corriger tout le mal fait aux faibles, attente d'un ordre social plus équitable. Cela ne signifiait pas que les communistes avaient une solution, ni qu'ils en préparaient une, au contraire. Mais il y avait l'idée que l'histoire avait une signification, une direction, que l'existence n'était pas dénuée de sens, absurde. C'était une idée qu'animaient les hommes en Occident depuis le XVIIIe siècle et qui, grâce à Marx, s'était profondément enracinée dans le XXe siècle. Je ne pense pas que la perte irrémédiable de cette idée représente une grande conquête spirituelle. Jusqu'hier, nous savions où l'histoire allait et quelle valeur nous devions accorder au temps. Maintenant, nous errons sans but, perdus, en nous demandant sans cesse quel air est-il, avec un certain fatalisme, un peu comme certaines personnes ne cessent de demander en Russie quel air est-il. Plus personne ne le sait. C'est la citation de Lévinas et je termine avec une citation d'une autre Emmanuel, Emmanuel Mounier, qui nous rappelait déjà en 1950, toute structure économique, pour rationnelle qu'elle soit, si elle se base sur le mépris des exigences fondamentales de la personne, porte en elle sa propre condamnation. Merci beaucoup.
Je voulais savoir quels sont les moyens dont dispose votre organisation, la CNUSED, pour travailler à cette réduction des inégalités dont vous venez de nous parler.
Nous sommes une organisation assez modeste. Nous n'avons pas les pouvoirs de négociation de l'Organisation mondiale du commerce, ni les moyens financiers de la Banque mondiale. D'une certaine façon, nous essayons de jouer pour les pays en développement les rôles que l'OCDE joue pour les pays développés. C'est-à-dire, nous sommes surtout une organisation qui essaie d'assister, de porter une assistance aux pays en développement pour mieux se préparer aux négociations commerciales, pour essayer d'obtenir un traitement spécial aux pays en développement. Et en concret, nous travaillons beaucoup en matière d'amélioration des conditions des investissements, en matière de renforcement du secteur productif. Mais c'est surtout par les biais de l'assistance technique, parce que nous n'avons pas la possibilité de négocier des règles pour une raison qui est facile à comprendre. Les pays les plus puissants en matière de commerce préfèrent dans ces matières négocier des règles dans des organisations où ces pays ont plus de poids, tandis que nous, comme nous sommes un organe de l'Assemblée générale des Nations unies, nous sommes quand même une organisation, je dirais, d'une structure, d'un processus décisoire plus égalitaire.
Est-ce que vous pensez qu'il est trop simpliste de dire que c'était l'éducation, je parle de l'éducation de base, l'éducation populaire, qui est à la base de tout, qui est la condition de tout progrès social et économique?
Oui, vous savez, je partage l'avis que l'opinion que le processus de développement est un apprentissage permanent. Et c'est la leçon qui nous a laissé le Japon, qui s'est développé en essayant d'apprendre avec les expériences européennes et nord-américaines. Et c'est le parcours des autres pays asiatiques qui ont cette soif des connaissances. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, parce que, comme vous le savez très bien, aujourd'hui, la connaissance, les technologies deviennent plus importantes comme un facteur de développement et de production que les facteurs traditionnels, le capital, la force de travail, les ressources naturelles. Et évidemment, en matière de connaissances et de technologies, il faut justement commencer par l'éducation. Mais d'un autre part, je vous dirais aussi que l'éducation ne suffit pas. Elle n'est pas une condition nécessaire et suffisante s'il n'y a pas d'autres conditions, comme un minimum de cohésion sociale, de répartition de bénéfices, un minimum de stabilité politique. Vous prenez par exemple le cas de la Russie ou de l'Argentine. Ce sont deux pays qui ont beaucoup de problèmes, mais personne ne nierait que ce sont deux pays qui avaient atteint un niveau d'éducation, de culture, de créativité assez élevé. Mais ces niveaux d'éducation et de culture n'a pas été accompagné par d'autres conditions. Et ces deux pays se trouvent aujourd'hui dans des situations difficiles. Alors, il faut se garder de penser que l'éducation est une panacée, qu'à elle seule, elle suffit pour résoudre les problèmes, parce que avec cette opinion, on tomberait un peu dans cette erreur de penser que les processus de développement ou les processus politiques tout court soient un processus socratique, qu'il suffit de connaître la vérité pour la pratiquer. On sait que malheureusement, ce n'est pas le cas.
Quelle a été la cause de cet échec économique quasiment obligatoire, étant donné l'histoire récente du XXe siècle et l'adversité où s'est trouvé le communisme au moment où il s'est installé et l'isolement où il s'est trouvé par rapport au monde occidental chrétien?
Évidemment, ce serait nécessaire d'avoir beaucoup plus de temps pour faire une analyse de toutes les causes qui ont contribué à l'échec du communisme. Je crois que vous avez énuméré quelques-unes des plus importantes. Mais d'un point de vue, disons, plus économique, il n'y a aucun doute que les systèmes qui organisent la production d'une manière trop centralisée, et en général, sont moins efficaces du point de vue des résultats, pour une raison qui est facile à comprendre pour ceux qui sont familiers avec l'économie. C'est le problème même des informations. Vous savez, c'est tout un secteur nouveau de l'économie. Et les marchés, avec tous ces problèmes, est en général un mécanisme plus efficace pour permettre la circulation des informations, même par exemple les choix des consommateurs, les préférences des consommateurs par rapport aux produits, que les mécanismes centralisés, bureaucratiques, étatiques. Alors c'est là une des explications qui montre que tous les systèmes d'organiser la production d'une façon excessivement centralisée en général, perdent en matière d'efficacité par comparaison au marché.
Vous avez parlé de la nécessité d'apprentissage de la compétitivité pour les pays en développement, la nécessité de ne pas faire lutter un pays non développé avec un pays qui est à la pointe de combat inégal. Un certain nombre de propositions dans ce domaine ont été faites, par exemple, par le professeur René Passet, qui proposait des zones avec des pays de développement à peu près égales au sein desquels il y aurait une libéralisation des échanges, mais par contre un protectionnisme extérieur pour permettre à ces pays de créer des bases et un début d'accumulation avant d'affronter les autres et de s'ouvrir là, de manière plus importante au commerce extérieur. Que pensez-vous de ce type de solution ?
Je pense que c'est absolument nécessaire d'avoir un processus graduel de libéralisation, surtout des plus pauvres. Si vous prenez le cas de l'Afrique, par exemple, vous savez, le problème fondamental de la plupart des pays africains, ce n'est pas seulement les difficultés qu'ils ont à écouler leurs marchandises sur les marchés à cause du protectionnisme, par exemple en agriculture ou en matière de textiles. Mais c'est surtout un problème d'insuffisance d'offres. Ce sont des pays qui ont un secteur productif trop étroit. Pour vous donner une idée, d'un total des 53 pays africains, à peu près 45 dépendent de deux ou trois matières premières pour l'essentiel de leurs exportations, soit le café, le cacao, l'huile de palme et dans certains cas le pétrole. Vous savez que ces quatre produits sont des produits qui n'ont rien à gagner des négociations commerciales, parce que ce sont des produits qui, en général, n'ont pas des barrières douanières. Leur problème vient d'ailleurs, la surproduction, les prix extrêmement bas, etc. Quelle est la solution ? Ces pays doivent diversifier leur secteur productif. Ils doivent élargir ces secteurs, même en matière des produits, des ressources naturelles. Par exemple, aujourd'hui, vous savez, il y a des pays qui commencent à exporter des fleurs, des fruits, des légumes, de ne rester pas basé sur le café, le cacao, l'huile de palme. Il faut aussi avoir un système plus capable d'industrialiser ces produits. Tout cela exige des investissements, soit intérieurs, soit étrangers, exige des capacités gérentielles, exige des capacités technologiques, et on ne peut s'attendre que ces pays-là le vont faire si on ouvre toutes les barrières immédiatement et si on les expose à les exportations de ceux qui sont beaucoup plus productifs, qui sont beaucoup plus efficaces. Alors, il faut envisager une période progressive d'apprentissage et d'investissement pour développer les systèmes productifs, mais en prenant soin que cela ne va pas créer des habitudes, qui ne va pas créer un protectionnisme permanent ou pour une sorte de facilité, on oublie qu'on doit acquérir la concurrence. C'est ce qu'ont fait les Asiatiques. Vous savez, les Asiatiques protégeaient certaines industries mais ils imposaient des limites. Ils disaient, cette industrie a 10 ans pour acquérir une compétitivité sur les marchés. Après la 10e année, on va commencer à réduire les niveaux de protection. Alors, c'est ce qu'on devait faire. Mais vous savez, malheureusement, aujourd'hui, il y a très peu de mécanismes pour aider ce pays à se préparer, à apprendre comment participer à la concurrence. Je vous donne un exemple. Tout le monde parle de commerce comme la clé du développement. Mais jusqu'il y a 3 ans, le total de l'assistance technique dépensée pour aider les pays à se préparer au commerce était de moins de 3% du total qui est utilisé par les pays développés pour aider les pays en voie de développement. Alors, il y a très peu d'efforts pour entraîner ces gens. Et la concurrence, vous savez, c'est comme un sport, comme un jeu. Qu'est-ce qu'on doit faire pour apprendre un jeu? Vous savez très bien, le football, par exemple. Cela ne suffit pas de connaître les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Cela ne suffit pas d'avoir un bon arbitre impartial. Il est nécessaire de s'entraîner pour apprendre à jouer, pour participer. Et c'est la même chose avec la concurrence. Il faut s'entraîner. Mais qui va entraîner ces gens-là? C'est là la question.
Vous avez parlé des régimes politiques qui pouvaient évidemment freiner le développement économique de pays. J'aimerais savoir ce que vous pensez aussi des régimes qui sont sous l'influence de la religion et comment pouvez-vous concevoir le développement de ces pays tels que l'Afghanistan, l'Irak, etc.
Oui, vous savez, il n'y a aucun doute que les facteurs qui sont quelquefois appelés culturels et qui englobent la religion dans le sens de la culture en parlant anthropologie, c'est-à-dire tous les systèmes de valeurs, de croyances, que cela a un poids. Mais il ne faut jamais généraliser d'une façon très vite, parce que vous savez, ces facteurs culturels, même ces facteurs religieux, dépendent beaucoup de la version qu'on a. Par exemple, lorsqu'on examine la situation des pays asiatiques, on trouve qu'il y a des pays très efficaces qui se sont développés très rapidement parce qu'ils avaient, comme on dit, une culture confucienne, d'origine un peu pragmatique. Mais à côté de cela, il y a des pays musulmans, comme la Malaisie ou comme l'Indonésie, qui ont aussi connu des performances extraordinaires. Il y a d'autres pays qui sont bouddhistes, comme la Thaïlande, qui est aussi un pays d'une grande capacité de croissance. Alors, on voit bien que, quelquefois, on généralise un peu trop vite. On attribue à une religion ce qui, parfois, est la conséquence d'une version locale d'une culture.
Ruben Tricupero, merci.